La séance d'aujourd'hui, comme vous le voyez sur le titre qui apparaît à l'écran, est consacrée à la théorie de la couche limite. Bon, alors disons-le d'emblée, la couche limite fait l'objet de livres entiers, de recherches qui sont encore extrêmement actives. Donc ce que nous présentons aujourd'hui, c'est simplement une introduction à la théorie de la couche limite en nous limitant à ce qu'on appelle classiquement la couche limite laminaire. D'accord ? Alors le point de départ de notre réflexion, en fait, se construit sur un bilan de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est étudier au grand Reynolds une classe d'écoulement qu'on a appelée les écoulements potentiels. D'accord ? Et on a appris un certain nombre de choses. On a appris par une technique qu'on a vue mercredi dernier, qui est la technique des transformations conformes, qu'il était possible, au moins théoriquement, de déterminer l'écoulement potentiel compatible avec n'importe quel obstacle donné à l'avance. Et on s'est convaincu que cette solution, enfin, on a l'espoir que cette solution soit pertinente du point de vue de la pratique, au moins pour les obstacles profilés. On a vu également dans le devoir maison qui vous est proposé une technique de résolution alternative par rapport à la méthode des transformations conformes qui est basée sur une idée de linéarisation. Voilà notre point de départ. Mais quand on fait un bilan de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, eh bien, le résultat qui est saillant, c'est qu'on est capable de calculer une portance. Et on a l'espoir que cette portance soit adaptée aux besoins, notamment de l'aérodynamique, de l'hydrodynamique. D'accord ? En revanche, on s'est également convaincu, quand on a démontré la formule de la portance, que la force d'interaction qui existait dans le cadre des écoulements potentiels entre l'écoulement et l'obstacle était précisément une portance, c'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de rendre compte d'un fait expérimental qui est l'existence d'une traînée. D'accord ? Et ça, c'est justement le point de départ de notre réflexion d'aujourd'hui. C'est qu'on n'est pas capable, dans le cadre de la théorie des écoulements potentiels, de prévoir une traînée de quelque nature qu'elle soit. Voilà. Donc évidemment, on s'est dit, une des raisons pour lesquelles on n'est pas capable de prévoir une traînée, c'est parce qu'on a négligé les termes visqueux. Okay ? Donc l'idée de départ, bien sûr, c'est d'introduire à nouveau la viscosité et une conséquence immédiate de la viscosité qui est la condition d'adhérence que nous avons laissé tomber dans le cadre de la théorie des écoulements potentiels qui est consacrée au fluide parfait. D'accord ? Alors, néanmoins, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter sur les résultats qu'on a produits? Est-ce que tout d'un coup, il faut céder à la panique en se disant, finalement, tout ce qu'on a fait, puisque c'est pris en défaut sur le plan expérimental, puisque manifestement, un fait saillant qui est l'existence d'une traînée n'est pas restitué par notre théorie, tout ça, ça remet en cause tout ce qu'on a fait. Alors, il ne faut pas céder à la panique, et il faut se rappeler qu'on a construit notre théorie sur une base qui est solide, qui est une discussion sur les ordres de grandeur comparés des termes visqueux et des termes inertiels. Et on a vu que cette discussion pouvait être menée en considérant un nombre adimensionnel qui est le nombre de Reynolds. Et on a dit d'emblée, on se place au grand Reynolds. Et au grand Reynolds, l'analyse qu'on avait faite, qui était une analyse d'ordre de grandeur, nous avait conduit à constater qu'il était, nous avait suggéré qu'au grand Reynolds, il était légitime de laisser tomber les forces de viscosité. Et on se rend compte pourtant que lorsqu'on néglige les forces de viscosité, on rate des choses. Donc on veut les réintroduire. Et déjà, il est bon de comprendre de quoi il s'agit ici. Alors en fait, un point important qu'on avait évoqué lorsqu'on a parlé du Reynolds, c'est qu'on a dit le Reynolds est attaché, n'est pas un nombre intrinsèque, d'accord, attaché à un fluide et à un écoulement, il est également attaché à une longueur caractéristique, d'accord. Il va dépendre de la masse volumique, de la viscosité, qui sont des propriétés du fluide, de la vitesse, qui est une propriété de l'écoulement, mais également à une longueur caractéristique. De sorte que quand on parle d'un Reynolds, d'un écoulement, eh bien, on dit quelque chose qui n'est pas tout à fait précis, il faut parler du Reynolds à une certaine échelle. Et donc, nous, on s'est dit, moi, j'ai un avion, par exemple, je veux travailler sur l'interaction entre l'aile et l'écoulement, d'accord ? Donc, la longueur caractéristique qui s'impose à moi, ça va être la corde de mon aile, d'accord ? Et donc, je travaille avec un Reynolds qui est bâti sur la corde. Et quand je fais ça, j'obtiens une théorie d'écoulement potentiel qui tient la route. Seulement, ce que je rate à ce moment-là, c'est des phénomènes, d'accord, où le Reynolds n'est plus petit où le Reynolds n'est plus grand, pardon, et le Reynolds peut être beaucoup plus faible que ce que je prévois en prenant comme échelle d'espace la Corse, si je m'intéresse à une échelle d'espace beaucoup plus fine. D'accord ? Et c'est là qu'intervient la condition d'adhérence, puisqu'elle se joue au voisinage de la surface de l'obstacle. Donc le point de départ de notre analyse va être de dire, ben, certes, à l'échelle de la corde grand L, je développe un calcul dans lequel je peux m'assurer que les termes visqueux sont négligeables par rapport aux termes inertiels, parce que le Reynolds calculé à partir de grand L est grand, et donc je vais avoir à l'échelle de grand L un calcul qui semble pertinent, mais si je m'intéresse à une échelle d'espace qui est beaucoup plus fine, en regardant par exemple le voisinage de la surface de mon obstacle, d'accord ? Donc si je m'intéresse à une échelle d'espace beaucoup plus fine, je vais avoir un Reynolds qui est lui-même beaucoup plus petit, et peut-être qu'à cette échelle, les phénomènes visqueux deviennent importants. D'accord ? Donc voilà qualitativement le point de départ. Donc le point de départ, ça va forcément, sur le plan qualitatif, être de faire un zoom au voisinage de l'interface. Et évidemment, au voisinage de l'interface, ce à quoi je m'attends, eh bien, c'est bien sûr que la condition d'adhérence soit respectée, c'est-à-dire que la vitesse soit nulle, comme il se doit pour un fluide visqueux newtonien, que la vitesse soit nulle au niveau de la paroi, d'accord. Et puis, a priori, ce que j'anticipe, c'est qu'elle va croître, et qu'à mesure que je vais m'éloigner de la paroi, eh bien, cette vitesse va tendre vers celle que j'obtiens au niveau de la paroi, dans le cadre du calcul que j'ai fait dans le cadre de la théorie des écoulements potentiels. Alors, quand je regarde ces dessins, je vois qu'il y a deux axes des Y, d'accord ? J'ai un axe des Y à gauche et un axe des Y à droite. D'emblée, disons-le, cette variable d'espace décrit bien sûr l'éloignement par rapport à la paroi, mais pas à la même échelle, d'accord ? Donc, à l'échelle de gauche, je travaille... Dans le dessin de gauche, je travaille à une échelle qui est grossière, dont la longueur caractéristique est grand L. Dans le dessin de droite, j'ai zoomé au voisinage de la paroi, d'accord, de sorte que Y, j'ai pas pris une autre notation, mais j'aurais pu le faire, décrit l'éloignement par rapport à la paroi, mais à une échelle qui est beaucoup plus faible, d'accord, qui est beaucoup plus fine. Okay. Donc il faut déjà avoir cette affaire-là en mémoire. De sorte qu'en fait, lorsque je vais sortir... Donc, les phénomènes que j'ai en vue, donc ils vont se jouer au voisinage de la paroi, d'accord. J'anticipe qu'ils vont se développer à une échelle d'espace que je note ici delta et que je vais appeler l'ordre de grandeur de ma couche limite, d'accord. Mais que lorsque je m'éloigne de quelques delta par rapport à ma paroi, eh bien, je vais me retrouver en fait dans un régime qui peut être décrit à l'échelle grossière grand L. D'accord. Donc on va avoir deux écoulements. À gauche, un écoulement qu'on va appeler l'écoulement extérieur, d'où la lettre petit e qui apparaît ici, et qui va être en fait la solution du même problème dans le cadre de la théorie des écoulements potentiels. Et à droite, l'inconnu du problème, d'accord, ben je vais avoir ce qu'on appelle la solution intérieure, qui est donc la variation encore complètement inconnue du champ de vitesse au voisinage de la paroi, dont j'anticipe qu'elle doit être raccordée à l'écoulement extérieur. Alors, il y a un point un tout petit peu fin à bien comprendre ici, c'est que, eh bien, je le répète, les variables d'espace petit y que vous avez à droite et à gauche correspondent à des échelles différentes, d'accord ? Et que finalement, la sortie de cette région qu'on va appeler la couche limite, que j'obtiens lorsque y est égal à quelques delta, correspond au zéro de l'échelle macroscopique. D'accord ? Si bien que ce que j'espère, c'est que la vitesse que je vais déduire d'une analyse fine à l'échelle de delta, d'accord, va avoir une limite finie lorsque je m'éloigne de la paroi, et cette limite finie, disons-le dès maintenant, ne sera rien d'autre que la valeur que prend l'écoulement extérieur lorsque je suis au niveau de la paroi. Donc je viens de me livrer un certain nombre de considérations qualitatives qui sont extrêmement importantes pour la suite et qu'on va essayer bien sûr maintenant de clarifier sur le plan quantitatif. D'accord ? Donc les deux règles du jeu vont être pour l'analyse de cette région, qui est une région pariétale au voisinage de la paroi, il conviendra de prendre en compte la condition d'adhérence, D'accord? C'est-à-dire le fait que la vitesse est rigoureusement nulle selon ces deux composantes, ux et uy, au niveau de la paroi. Ça, c'est le premier point. C'est ce que, justement, j'ai raté dans le cadre du dessin de gauche, c'est-à-dire dans le cadre de la théorie des écoulements potentiels. Et on va reprendre le temps de bien comprendre pourquoi. D'accord? Et puis ensuite, il va falloir raccorder cette affaire-là à l'écoulement extérieur, parce que mon espoir, c'est que tout le travail que nous avons fait ensemble pendant 3 ou 4 semaines, d'accord, c'est-à-dire l'étude des écoulements potentiels, évidemment, ne se termine pas en cul-de-sac, ok, et que le travail que nous allons faire aujourd'hui puisse être adossé à celui qui a été fait jusqu'à présent, d'accord. Donc 2 idées pour bâtir cette couche limite, une condition d'adhérence au niveau de la paroi pour restaurer la physique de la viscosité, et d'autre part, une condition de raccord pour pouvoir valoriser tout le travail qui a été fait ensemble et qui, je le répète, repose sur un argument qui est tout à fait solide sur le plan scientifique, c'est que, à l'échelle de grand L, les effets visqueux sont bel et bien négligeables. D'accord? D'où l'espoir de pouvoir obtenir ce raccord. Voilà. Donc, en quelque sorte, le plan de marche est celui-là. Reste que lorsque je dis que je fais une analyse pariétale, à une certaine échelle delta, eh bien, delta est une inconnue du problème. Il va donc falloir clarifier, au cours de cet exposé, la valeur quantitative de ce delta, dont j'ai dit qu'il représentait l'ordre de grandeur de cette région où les effets visqueux n'étaient pas négligeables. Et bien précisément, ça va être l'argument scientifique qui va me permettre de déterminer la valeur de delta. On peut le dire dès maintenant, delta sera déterminé en disant qu'il correspond justement à l'échelle d'espace pour lequel le Reynolds n'est plus grand, d'accord ? C'est-à-dire à l'échelle d'espace pour laquelle l'ordre de grandeur des effets visqueux et des effets inertiels seront comparables. Ok, donc beaucoup de bavardage, pas beaucoup d'équations jusqu'à maintenant, mais pas mal de physique qui vient d'être annoncée. Ok, alors à ce stade, on peut se poser la question, une question qui est pas si naïve que ça, qui consisterait à dire, mais pourquoi je fais pas une théorie d'écoulement potentiel en prenant en compte la condition d'adhérence? La réponse c'est, je le fais pas parce que je ne peux pas. Et en fait, je ne peux pas parce que mathématiquement, l'ordre différentiel du problème que j'obtiens dans le cadre de la théorie des écoulements potentiels est trop faible pour prendre en compte la condition d'adhérence. Et c'est ce qu'on va essayer de revisiter un tout petit peu rapidement, ce qui nous fera d'ailleurs un bilan de ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant. Donc je reviens sur l'argument fondamental qu'on a évoqué, qui est le Reynolds. Le Reynolds est grand à l'échelle de la corde. D'accord, il peut être petit au voisinage de la paroi et ça fait que dans un cas, je peux faire une théorie d'écoulement potentiel. Dans l'autre cas, je dois prendre en compte les effets de la viscosité. On revisite cette affaire-là rapidement. D'accord, le point de départ, c'est bien sûr la conservation de la quantité de mouvement pour un fluide visqueux newtonien incompressible, c'est-à-dire l'équation de Navier-Stokes, dans laquelle figure ici le terme de viscosité et à gauche le terme inertiel. Voilà ce que j'obtiens en régime permanent, bien sûr. Alors, vous vous souvenez qu'on a dit, pour jauger les différents termes de cette équation, il convient d'introduire des ordres de grandeur pour la vitesse, pour la pression, pour la variable d'espace, d'accord? Et donc, U infini, la vitesse de l'écoulement loin de l'obstacle, grand L, typiquement la corde de mon aile, et puis, pour la pression, on a pris comme jauge rho U infini carré, puisqu'on travaille avec un fluide incompressible, d'accord? Voilà. Alors, assez rapidement, je reviens pas sur ce qu'on a déjà fait. On a pu montrer que l'ordre de grandeur des termes inertiels, c'est rho U infini carré sur L. On a pu montrer que l'ordre de grandeur des termes de pression est rigoureusement le même. Et que, pour ce qui concerne les termes visqueux, eh bien, l'ordre de grandeur fait évidemment place à la viscosité. D'accord? Et donc, pour comparer les termes visqueux et les termes inertiels, on a fait le quotient et on a fait apparaître le nombre de Reynolds. Au passage, je vois apparaître ici un nombre dont on n'a pas beaucoup parlé. Je le dis simplement sur le plan culturel, pas plus que ça, mais c'est quand même intéressant de le noter. Si je laisse le terme de force de gravité ici, je le vois apparaître à nouveau sous forme adimensionnelle. dimensionnelle ici. Et la quantité en facteur du vecteur EZ, qui est la verticale ascendante, d'accord, eh bien, c'est l'inverse de ce qu'on appelle le nombre de Froude. D'accord. Et le nombre de Froude me permet justement de juger de l'importance des effets de gravité dans mon problème. Okay. Donc, culturellement, c'est pas inutile de savoir ça. Par exemple, si vous prenez un navire qui se déplace typiquement à 10 mètres par seconde, d'accord, vous voyez que si la taille caractéristique de ce bazar, c'est le décamètre, eh ben, le Froude, il est pas infinitésimal. Enfin, plus exactement, le dernier terme ne peut pas être négligé, il est même grand trou de 20. Et d'autant plus, si vous prenez une longueur plus grande, hein, si vous prenez, cette fois-ci, l'hectomètre, eh ben, vous voyez que ce machin-là vaut 10 à peu près pour un navire qui se déplace à 10 mètres par seconde. Et donc, on peut certainement pas négliger les termes de gravité dans un problème d'hydrodynamique, a priori. Bien au contraire, avec la même taille caractéristique, hein, entre le décamètre et l'hectomètre, d'accord, bah, si vous prenez un avion, bah, cette fois-ci, la vitesse va être beaucoup plus grande et le terme de gravité va disparaître. Je dis ça simplement sur le plan culturel, mais c'est pas inutile de savoir ce genre de choses. Au passage, ça nous montre la puissance de l'outil d'adimensionnalisation pour discuter dans un problème de la nécessité ou non de faire intervenir tel ou tel terme. Mais je me focalise à présent sur le nombre de Reynolds, d'accord. Et je répète l'argument qui a été le socle de tout ce qu'on a fait dans le cadre de la théorie des écoulements potentiels, qui est le suivant, c'est que le Reynolds est grand, donc je dégage le terme de viscosité A. Je dégage le terme de viscosité. Ce qui est intéressant, c'est de noter que le terme de viscosité est un terme différentiel d'ordre 2, d'accord ? Alors que le terme inertiel est un terme différentiel d'ordre 1. Et vous le savez bien, on va raconter ça dans un petit exemple très très simple dans un instant. Eh bien, l'ordre différentiel d'un problème aux dérivés partielles, eh bien, intègre automatiquement le nombre d'informations dont j'ai besoin aux limites. Okay ? Et si je réduis l'ordre différentiel, j'ai moins besoin de conditions aux limites. Ou, si je le dis de manière négative, je ne suis pas capable de prendre en compte certaines conditions aux limites. Et donc, par rapport à la question pseudo-naïve que je posais tout à l'heure, bah, pourquoi je fais pas une théorie d'écoulement potentiel en prenant en compte la condition d'adhérence? Bah, c'est parce que je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas. La seule condition que je vais être capable de prendre en compte, c'est la condition d'imperméabilité, d'accord? Et ce, parce que l'ordre différentiel du problème aux dérivés partielles que je considère est trop bas, d'accord? Donc, à partir du moment où je dégage le terme de viscosité, automatiquement, je fais chuter l'ordre différentiel de mon problème et il y a des conditions limites que je ne peux plus prendre en compte, notamment la condition limite de vitesse tangentielle nulle. Okay. Alors, ce que je vous proposais maintenant, pour essayer d'ancrer tout ça sur un exemple très simple, c'est bah, quelque chose qui ressemble au problème mathématique que nous sommes en train d'analyser, mais dans un contexte extrêmement élémentaire. Alors, je vais montrer tout de suite de quoi il s'agit, ce sera plus simple. Voilà. Le problème que je vais considérer, c'est une équation différentielle linéaire à coefficient constant d'ordre 2. Okay ? Mais pas n'importe quelle équation. Vous voyez que dans le terme du second ordre, ici, je fais apparaître un petit paramètre epsilon qui a vocation, dans tout ce que je vais raconter maintenant, à être très petit et à tendre vers zéro. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je suis en train d'essayer ? Je suis en train d'essayer de construire un cousin unidimensionnel du problème qui consiste à passer de Navier-Stokes à Euler. OK ? En gros, les deux premiers termes, ici, ça va être mon problème de l'air, et mon terme du second ordre, ça va être mes termes visqueux. Donc, si vous préférez, le terme inertiel, il est ici, et le terme visqueux, il est là. Le terme inertiel, il est du premier ordre, le terme visqueux, il est du second ordre. Et moi, je voudrais m'arranger pour essayer d'analyser dans cet exemple très simple la discussion qui consiste à dégager éventuellement le terme du second ordre, en faisant tendre epsilon vers zéro, ou lorsque epsilon est suffisamment petit. D'accord ? Non, je suis d'accord que c'est un petit peu capillotracté, mais vous allez voir que c'est assez instructif. Donc évidemment, c'est un problème différentiel du second ordre, donc j'ai besoin de deux conditions limites, et de deux seulement, je suis capable d'intégrer deux conditions limites, et je les ai prises loin en un point que je vais appeler le point d'abscisse grand L, f de L égale à grand B. Et puis ici, typiquement, 0, ben, ça va être ma paroi, si vous voulez, d'accord? Ça va être ma paroi, x égale à 0. Et je me donne, en x égale à 0, une condition aux limites du type f de 0 égale à grand A. D'accord? Alors, bien sûr, ben, je sais résoudre ce genre d'équation. Et je vous ai représenté ici la solution pour une valeur petite de epsilon, mais non nulle. D'accord? Et ce que vous observez, ben, c'est qu'il y a tout un régime. Ben, je ne vais pas donner tout de suite la solution. Il y a un premier régime ici, là, qui semble partir vers là-bas. Et puis, ah, ben non, il faut se souvenir qu'en x égale à 0, on a dit quelque chose. Il faut que la fonction vaille grand A. Et si moi, mon grand A, il vaut 1, d'accord? Et donc, il faut que ma courbe s'incurve pour respecter cette condition limite. Okay? Et si je m'amuse à prendre des valeurs de epsilon de plus en plus petites, ce que je constate, c'est que j'ai toujours la même physionomie. Mais ce sommet, ben, il est toujours à peu près à la même altitude, mais il se décale. Il se décale vers la gauche, d'accord? Donc en gros, j'ai une sorte de région pariétale ici, de région très fine, dont l'ordre de grandeur est contrôlé par la valeur de epsilon, où la fonction va croître rapidement depuis la valeur grand A jusqu'à cette limite que je connais pas encore très bien, d'accord? Et ensuite, bah, tout se passe comme si on avait une solution qui était en fait indépendante de la condition limite en grand A. Si vous voulez, en gros, cette affaire-là, cette région dont je viens de dire que l'épaisseur est contrôlée par la valeur de epsilon, ça va être ma couche limite. OK? Voilà. Avec ces, j'ai essayé ici de construire, si vous voulez, la règle du jeu pour passer du problème physique qui nous intéresse, c'est-à-dire la transition Navier-Stokes à Euler, d'accord, à ce petit exemple très simple. OK? Après, vous en ferez ce que vous voulez. Mais vous allez voir que cet exemple très simple, l'avantage, c'est qu'on est capable de le désosser complètement. Donc je répète, vous pourrez jouer à ça si ça vous amuse, lorsque epsilon tend vers 0, on garde la même physionomie, le sommet qui est ici, la valeur de l'ordonnée de l'ordonnée du sommet est à peu près constante, mais il se décale vers la gauche, c'est-à-dire en gros que la région dans laquelle la solution est sensible à la condition limite en grand A devient de plus en plus fine. C'est ça, si vous voulez, ma couche limite. Et la condition limite en x égale à 0, d'accord, f de 0 égale à grand A, en gros, c'est ma condition d'adhérence. Donc la région dans laquelle ma condition d'adhérence est perceptible a une épaisseur qui est contrôlée par la valeur de ce petit paramètre. Bon, alors maintenant, on désosse le truc d'une manière, on a tous envie de dire, mais puisque epsilon est petit, on n'a qu'à dégager le terme du second ordre. C'est exactement ce qu'on a fait quand on a pris notre problème de Navier-Stokes. On a dit, ben le terme visqueux, c'est-à-dire le terme du second ordre, est affecté de l'inverse du Reynolds. Sur Reynolds, c'est grand, on dégage le terme du second ordre. C'est exactement ce qu'on a envie de faire. Et à ce moment-là, évidemment, je tombe sur un problème différentiel qui est le reste de ce qu'il y a sur la figure, c'est-à-dire LF prime plus F égale à 0, qui est un problème du premier ordre. Okay? Donc, en gros, c'est ça ce qu'on va faire. Mais on va le faire d'une manière un tout petit peu plus soigneuse, d'accord, qui vous expliquera aussi pourquoi j'ai mis ici un 1 fois F, un L fois F prime, un L carré fois F seconde. D'accord? C'est que, ben, si F est une équation de physique, alors ça veut dire que F a une certaine dimension. Par exemple, F, c'est une vitesse. D'accord? Et ben, dans ce cas, F prime n'a pas la même dimension que F. D'accord? Donc, si ces deux termes vivent dans la même équation, c'est qu'ils sont tous les deux homogènes. Et par conséquent, il faut qu'il y ait un facteur qui soit une longueur devant F prime. Donc, pour discuter ça un petit peu proprement, eh bien, je vais considérer deux choses. Je vais considérer d'abord ce qui se passe loin de la paroi, c'est-à-dire à une échelle qui est contrôlée par grand L sur mon dessin, c'est L égale 1, et ensuite près de la paroi, c'est-à-dire à une échelle qui est contrôlée par epsilon fois grand L. D'accord? Donc, ça va me donner ce que j'ai tout à l'heure par anticipation appelé la solution extérieure, c'est-à-dire la solution qui est construite à une échelle d'espace dont la longueur caractéristique, c'est la corde de mon L, grand L, d'accord? Et ensuite, on verra ce qui se passe au voisinage, c'est-à-dire à une échelle d'espace, où au contraire, la taille caractéristique, ça va être l'épaisseur de la couche limite. Alors, solution extérieure d'abord, bah, solution extérieure, évidemment, la taille caractéristique, ça va être grand L, et la fonction. Donc, je vais normaliser la variable d'espace dimensionnée petit x par grand L, je la note ici x tilde, et évidemment, je vais introduire une fonction f tilde de x tilde qui prend la valeur f de petit x au point homologue, c'est-à-dire en x égale à L fois x tilde. Évidemment, je suis capable de calculer f prime et f seconde, et ça va faire intervenir les dérivés de f tilde prime, alors la dérivée f tilde prime et la dérivée f tilde seconde. L'avantage de la fonction f tilde, c'est que ces dérivées sont toutes homogènes à la fonction de départ parce que je dérive par rapport à une variable adimensionnelle. Et je vois que l'ordre de grandeur de f prime, c'est 1 sur L. L'ordre de grandeur de f seconde, c'est 1 sur L carré. Lorsque je reporte ça dans le problème initial, maintenant, j'ai trois termes qui sont sans dimension et je peux donc les jauger. D'accord, puisque je vois apparaître que l'échelle, puisque f seconde tilde, f prime tilde et f tilde sont réputés du même ordre de grandeur, eh bien l'ordre de grandeur du terme d'ordre 2 en dérivée partielle, en dérivée pardon, eh bien c'est epsilon. Donc si epsilon est petit, j'ai évidemment très envie de dégager ce terme-là. Alors on pourrait faire ça comme ça, c'est un peu rustique. La méthode, je ne vais pas rentrer dans le détail de la théorie, mais il y a une méthode systématique pour analyser ce genre de choses qu'on appelle la théorie des développements asymptotiques raccordés. Elle consiste en fait à chercher la solution de ce problème comme une puissance croissante, comme une série. Des puissances croissantes du petit paramètre epsilon. C'est-à-dire, en fait, on cherche la solution de ce problème sous la forme d'un terme d'ordre 0, un terme d'ordre 1 en epsilon, un terme d'ordre 2. On injecte cette série dans le problème différentiel et on regroupe les choses par ordre croissant de epsilon. Alors, quand on... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pourrez essayer de jouer à ça si ça vous intéresse ou poser des questions aux collègues. En fait, lorsque je fais ça, à l'ordre 0, ce que je vais trouver, c'est comme attendu que l'ordre 0 est solution de ce que je voulais, c'est-à-dire ce qui reste lorsque je dégage le terme du second ordre. Et donc, je trouve une équation différentielle du premier ordre, ok. Et qui dit équation différentielle du premier ordre dit que pour l'intégrer, il faut une et une seule condition limite. Évidemment, la condition limite pertinente, c'est celle que je récupère en grand L, d'accord. Donc, j'aurais dû, j'ai f de grand L qui est égal à b, donc f tilde de 1 qui est égal à b. Et donc, évidemment, je sais intégrer cette affaire-là. Et je trouve le b facteur de exponentielle de 1 moins x tilde. Si je représente ça sur le dessin, c'est-à-dire si je me livre à cette analyse qui, pour résumer, consiste à dégager le terme f seconde, d'accord. Si je me livre donc à ce calcul, et ben voilà ce que je trouve. Je trouve la courbe rouge ici sur ce dessin. Et cette courbe rouge, d'accord, et ben je constate qu'elle marche très très bien, sauf évidemment au voisinage de la paroi. Et donc, je suis exactement en train de montrer ce qu'on fait avec une théorie d'écoulement potentiel. Avec une théorie d'écoulement potentiel, on dégage le terme visqueux, donc on va faire du très bon travail à l'échelle de grand L, à l'échelle de la corde de l'aile, sauf, évidemment, que notre fonction va être complètement prise en défaut sur le plan de la physique, parce qu'on n'a pas été capable d'intégrer la condition limite pariétale. On n'a pas été capable d'intégrer cette information. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu un ordre différentiel dans le problème aux dérivées partielles. Enfin, qui est ici une équation différentielle ordinaire. On a perdu un ordre différentiel dans notre problème, puisqu'on est passé de 2 à 1. Donc, une seule condition limite. Et donc, on n'est pas capable d'intégrer cette information-là. Ça, c'était la solution extérieure, celle que je construis lorsque j'analyse mon équation à l'échelle de grand L. Maintenant, je pourrais avoir un autre point de vue qui est de dire, non mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qui se passe au voisinage de x égale à 0. Alors, j'ai une autre échelle d'espace qui va s'imposer à moi, qui va être donc epsilon L. Et donc, je vais analyser le problème maintenant au voisinage de la paroi, c'est-à-dire typiquement juste à côté de x égale à 0, mais à une taille qui est limitée à epsilon L. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Bah pareil, je vais introduire une variable de normalisation que je vais appeler grand X. Là, il n'y a pas lieu de mettre un tilde là. Grand X qui est petit x sur epsilon L. D'accord ? Je normalise exactement comme tout à l'heure. Et puis, de même que j'avais introduit la fonction petit f tilde là, j'introduis ici une fonction grand F de la variable sans dimension grand X. Et puis, je regarde ce que ça donne. Bah, ça me donne ça. Vous pourrez vérifier sans difficulté. Et donc, vous voyez, a priori, si epsilon est petit, que vous avez un terme qui est prédominant, qui est la somme grand F seconde plus grand F prime sur epsilon. Et puis, ce terme-là, j'ai évidemment, cette fois-ci, très envie de le dégager, lui aussi. Alors, la bonne méthode est exactement la même que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle consiste à chercher grand F sous la forme d'une série des puissances croissantes du petit paramètre epsilon. Bon, je dis ça juste pour être un tout petit peu rigoureux, d'accord ? Quand je vais injecter cette série là-dedans, je vais trouver comme attendu, que l'ordre zéro de ce développement, d'accord, est la solution de l'équation f seconde plus f prime égale à zéro. C'est-à-dire ce que j'obtiens lorsque je dis ce terme-là est dominant, donc je dégage celui-là, je ne garde que f seconde plus f prime. Voilà ce qu'on trouve. Alors cette fois-ci, je tombe sur une équation différentielle du second ordre, c'est-à-dire un machin qui est capable d'intégrer deux conditions limites. Ah, ça c'est un petit peu fâcheux parce que j'en ai qu'une seule. J'ai pas le droit de jouer avec la condition limite en grand A parce qu'évidemment, je fais une analyse au voisinage de la paroi et j'ai dégagé un terme différentiel qui serait, j'ai dégagé un terme dans mon équation différentielle qui serait justement le terme qui me permettrait de récupérer l'information en x égale à grand L. Quoi qu'il en soit, si je résous cette équation en prenant en compte la condition limite licite, qui est celle qui est en x égale à 0, c'est-à-dire en grand x égale à 0, ben je vais trouver quelque chose qui est de cette forme-là. Alors qu'est-ce que j'observe? Ben j'observe que quand grand x tend vers l'infini, d'accord, ben ce machin-là va tendre vers une constante. Est-ce que je peux interpréter la valeur de cette constante? Ben pour ça, il faut que j'interprète ce que ça veut dire grand X tend vers l'infini. Souvenez-vous de ce que j'ai raconté tout à l'heure quand j'ai dit, ben en fait, j'ai deux échelles d'espace, j'ai deux dessins avec ma variable, mon ordonnée qui était Y, et j'avais dit, en fait, il y a un Y micro et un Y macro. Et quand le Y micro devient très grand, ça veut dire, en fait, que je suis en train de parler du zéro de l'échelle macroscopique. Ben c'est exactement ce qui se passe ici. C'est-à-dire que quand grand X tend vers l'infini, là-dedans, ben ça veut dire en fait que je suis en train de me raccorder avec le petit x égal à 0, d'accord, le petit x tilde égal à 0 de l'analyse qui correspond à une taille caractéristique égale à grand L. Donc lorsque je fais tendre grand x vers l'infini là-dedans, ce que j'attends, c'est que grand F se raccorde à la valeur de la limite de la fonction solution du problème extérieur en x égale à 0. Okay, donc je montre ça sur un petit dessin. Ce que je vais faire, je reprends ma solution extérieure. Là, voilà ma solution extérieure. Ben, quand x tend vers 0, je tends vers une valeur qui doit être de l'ordre de 2,7 ici sur mon dessin. Eh bien, c'est à ça que je vais raccorder ma solution intérieure. Je veux dire que ma solution intérieure, elle va tendre vers 2,7 lorsque grand x tend vers l'infini. Parce que la sortie de la zone infiniment mince au voisinage de ma paroi, c'est justement le zéro de l'analyse grossière. D'accord? Voilà. Bon, je ne vais pas raconter ma vie là-dedans parce que j'ai plein d'autres choses à vous faire, à vous raconter aujourd'hui. D'accord? Quoi qu'il en soit, si je fais ça, ben je fais du très bon ouvrage. Regardez ce que je trouve, la courbe verte dont j'ai limité ici la représentation à des valeurs petites du paramètre petit x. D'accord? Voilà ce que j'obtiens lorsque j'impose que la limite de la fonction f0, c'est-à-dire a plus c, quand grand x tend vers l'infini, soit égale à mon 2,7, c'est-à-dire à la valeur en 0 de la solution extérieure. Bon, ben, si je rassemble l'information, j'ai donc dans la zone, j'ai donc une analyse simplifié au voisinage de x égale à 0, qui me donne la courbe verte. Je viens de remontrer une analyse simplifiée, qui est la courbe rouge, lorsque je travaille au contraire à l'échelle globale. D'accord? Est-ce que je peux mettre les deux ensemble? La réponse est oui, c'est très simple à faire, et c'est ce que font les gens qui pratiquent la théorie des développements asymptotiques raccordés. La voilà, cette fonction. En fait, vous avez dans l'expression de la solution raccordée, la variable d'espace petit x, qui est normalisée ici par grand L, normalisée ici par epsilon grand L, et phi 0, ben c'est la limite commune de ces deux fonctions, d'une part lorsque petit x tilde tend vers 0, d'autre part lorsque grand x tend vers l'infini. D'accord? Alors par exemple, si je prends grand x tend vers l'infini, d'accord? Ben quand grand x tend vers l'infini, par construction, f0 va tendre vers ce phi 0, donc ça s'en va, et bon, donc ce que je trouve, c'est que quand grand x va tend vers l'infini, eh bien il faut prendre la solution extérieure. Si au contraire, je tends petit x tilde vers 0, bah, quand petit x tilde tend vers 0, bah, cette fonction, elle tend vers phi 0, donc les deux termes extrémités, là, ils se simplifient. Et ce que je trouve, c'est qu'il faut décrire la fonction à l'aide de la solution intérieure. Donc tout ça marche très très bien. Et si je représente ça graphiquement, je trouve la courbe rouge. D'accord? La courbe rouge ressemble étonnamment à la solution exacte, qui est la courbe bleue. Donc vous voyez que cette technique est très prometteuse par rapport au problème de physique qui nous est posé, qui est celui de la transition Navier-Stokes-Euler. En fait, je veux faire ni Euler, parce que ça, je l'ai déjà fait, ni Navier-Stokes, parce que sinon il aurait fallu le faire dès le début. Ce que je veux faire, c'est l'approximation de la solution exacte par une analyse dédoublée, d'une part une solution extérieure, d'autre part une solution intérieure que je raccorde ensemble. D'accord ? Et ben c'est ça le cœur mathématique de la théorie de la couche limite. On ne va pas résoudre les équations de Navier-Stokes, on ne va pas se contenter des équations de l'air, d'accord ? On va faire quelque chose d'intermédiaire, qui est de dire que les équations de l'air sont bien, mais seulement à l'échelle de grand L, et qu'au voisinage de la paroi, il faut prendre quelque chose qui est simplifié par rapport aux équations de Navier-Stokes. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est la suite du programme. Alors j'espère que ce petit exemple unidimensionnel vous a un tout petit peu éclairé. Vous pourrez vous y revenir si vous en avez envie pour... Il offre évidemment un cadre mathématique beaucoup plus simple pour comprendre les approximations auxquelles on consent lorsqu'on passe de Navier-Stokes à Euler ou lorsqu'à l'intérieur de Navier-Stokes, on dégage certains termes. D'accord ? Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Bon, donc maintenant, on va rentrer dans le cœur de l'analyse de la solution du problème dans la région de couche limite, dont je suppose physiquement qu'elle existe, et ça c'est un point sur lequel on va revenir à la fin de l'amphi. Okay. Je suppose que cette région existe, et si elle existe, eh bien, comment vit le champ de vitesse, le champ de pression, le champ de contrainte tout entier, puisque maintenant je vais parler d'un champ de contrainte tout entier à l'intérieur de cette région. Voilà la question qui est posée. La donnée de mon problème, c'est que j'ai résolu auparavant, c'est à partir de cela dont je vais partir, un problème d'écoulement potentiel. Donc, je connais la solution dite extérieure, c'est-à-dire la solution de l'écoulement potentiel compatible avec mon obstacle, d'accord, qui correspond à l'analyse grossière à l'échelle de grand L. Donc ça, c'est ma donnée. Je connais toute cette affaire-là, je connais le champ de pression, je connais le champ de vitesse, ou plus exactement, je connais le champ de vitesse, donc je connais le champ de pression par Bernoulli, d'accord. Et c'est à partir de cela que je vais tenter de construire la solution intérieure, c'est-à-dire la solution au voisinage de la paroi. Avec les deux règles qu'on a évoquées, d'accord, c'est-à-dire la condition d'adhérence, bien sûr, et la règle de raccord, on va chercher s'il est possible de raccorder l'évolution de la vitesse à l'intérieur de cette région encore un petit peu mystérieuse, notamment delta est pour le moment encore une inconnue, je le rappelle, d'accord. Est-ce qu'il est possible de raccorder cette affaire-là à la solution extérieure? Et je rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire que cette limite vers laquelle la vitesse va tendre lorsque y vaut quelques delta va être tout simplement la valeur prise au niveau de la paroi par la solution extérieure. Ça va être ça, ma règle du jeu. Ok? Alors, exactement comme on vient de le faire dans le cadre du problème unidimensionnel, il va falloir pour nous déjà commencer par normaliser les choses pour que ça soit un petit peu propre et qu'on puisse se livrer à une analyse physique en connaissance de cause. Donc, il faut déjà jauger les variables d'espace et ensuite jauger la vitesse. Alors, pour la variable d'espace, c'est un petit peu plus compliqué quand même que dans l'exemple très simple que je viens de traiter. Il y a deux dimensions, il y a X et il y a Y. Ça va pas être la même jauge. Bon, pour X, la jauge qui s'impose, c'est évidemment grand L, c'est-à-dire, en gros, typiquement, pour une L, la corde de mon L. Donc, je vais bien sûr travailler avec une variable sans dimension qui est petit X sur grand L. Mais pour Y, maintenant, qu'est-ce que je prends pour Y? Pour Y, je suis ici, je suis sur le dessin de droite. Et bien, justement, l'erreur que j'ai commise, entre guillemets, dans l'analyse par écoulement potentiel, c'est que j'ai pris la même jauge, grand L, pour les deux directions de l'espace. Et ça m'a conduit obligatoirement à dire que le Reynolds est grand, d'accord, parce que précisément, j'ai jaugé petit y par grand L. Alors que là, il faut dire non, la bonne jauge pour petit y, eh bien, c'est l'ordre de grandeur de l'épaisseur de ma couche limite que je note ici, delta. Donc je vais introduire une variable sans dimension qui est y sur delta parce que ce que je dis, c'est que l'échelle d'espace à laquelle j'ai des variations significatives de ma vitesse, c'est pas grand L, c'est delta, c'est beaucoup plus petit. Et c'est pour ça puis je vais avoir un Reynolds qui est lui-même beaucoup plus petit. D'accord ? Voilà pour l'échelle d'espace. Le point important que je viens de dire, c'est qu'il y a deux jauges différentes selon que je m'intéresse à la direction X ou à la direction Y. Pour ce qui est de la vitesse, ça va être un petit peu pareil. La jauge pour la composante horizontale de la vitesse, ça va être U infini. Mais maintenant, pour ce qui est de la direction verticale, okay, là, je suis un peu embêté. Parce que comment je vais la trouver, ma jauge? J'ai une condition d'adhérence ici. J'ai une condition d'adhérence qui me dit que la vitesse, elle est nulle ici. Donc la vitesse verticale, en particulier, est nulle à la paroi. D'accord? Uy est nul. C'est même ce que je prends en compte correctement dans le cadre de la théorie des égouements potentiels, c'est la condition d'imperméabilité. Uy égale à 0. D'accord? Oui, mais le problème, c'est que justement à cause de ça, ici, j'ai encore Uy égale à 0, parce que dans ma théorie d'écoulement potentiel, j'écris la condition de perméabilité qui prescrit que, à l'échelle grossière, Uy en 0 vaut 0. D'accord? Donc, je pars de 0, j'arrive à 0. Comment je fabrique un ordre de grandeur avec ça? Je vais faire confiance à la physique, d'accord, pour me le donner, et donc je vais introduire, pour le moment, une quantité inconnue, que j'appelle U indice N, qui est la jauge pour la vitesse en projection sur la direction verticale, que je ne connais pas, mais dont j'anticipe que ça doit être un infiniment petit par rapport à U infini. D'accord? Voilà. Donc je fais le bilan. Pour le moment, j'ai deux inconnus qui sont la jauge pour la coordonnée d'espace vertical et la jauge pour la vitesse d'espace vertical. D'accord? Alors, je vais me pencher vers la physique pour obtenir des informations concernant ces deux quantités. Tout d'abord, je vais exploiter la conservation de la masse. D'accord? Donc je vais introduire mes jauges dans l'équation de continuité, d'accord, pour obtenir une information concernant delta et un. Alors comment je fais? Le mécanisme maintenant vous est connu, hein, quand vous avez un machin de la forme dérivée de ux par rapport à x, d'accord, eh bien ux va vous faire sortir u infini et x va vous faire sortir la jauge de x qui est grand L. Donc vous pouvez annoncer que l'ordre de grandeur de ce terme-là, ça va être U infini sur L. D'accord? Et puis vous avez dy sur dy. L'ordre de grandeur de uy, ça va être un. Et l'ordre de grandeur de y, ça va être delta. Et si ces deux termes sont opposés, c'est que les ordres de grandeur U infini sur L et un sur delta doivent être identiques, obligatoirement. D'accord? Pour que votre équation ne soit pas triviale. Ok? Donc si vous faites ça, vous trouvez... Je l'ai écrit d'une manière un petit peu différente, puisque j'ai regroupé j'ai fait le quotient, en fait, des deux ordres de grandeur que je viens de calculer. Et ce que je trouve, c'est que, puisque, je le redis, ici, tel que c'est écrit, ça c'est un grand taux de 1, ça c'est un grand taux de 1, donc les deux termes étant opposés l'un à l'autre, forcément, la quantité LUN sur delta U infini doit être elle-même grand taux de 1, ce qui m'amène à poser que, finalement, UN, est égal à delta sur L, U infini, c'est-à-dire que la jauge pour la composante verticale de la vitesse au sein de la couche limite doit être, c'est ce que la physique m'apprend, ce que l'équation de continuité m'apprend, doit être un infiniment petit de U infini qui est bâti avec le quotient delta sur L. D'accord? Donc ça, au moins, pour le moment, c'est cohérent. Je sais toujours pas ce que c'est que delta, mais si je connais delta, je suis capable de jauger UN par rapport à U infini. UN sur U infini est un infiniment petit du premier ordre par rapport à delta sur L. OK. Voilà. Je continue mon aventure. D'accord? Je viens d'exploiter l'équation de continuité. L'autre loi de conservation que je vais utiliser, c'est bien sûr la conservation de la quantité de mouvement. Et je vais prendre la projection selon la direction longitudinale de l'équation de conservation de la quantité de mouvement, c'est-à-dire évidemment Navier-Stokes. OK? Et je vais voir ce que ça va m'apprendre, cette affaire-là. Bon. Donc, ce que vous reconnaissez ici, c'est évidemment le terme de pression, le terme de viscosité, le terme inertiel. J'ai tout détaillé en projection selon la direction X. Je dis en projection selon la tangente parce que, mon affaire, c'est pas forcément une plaque plane, hein. Ça peut être quelque chose de... Et petit x, en fait, c'est pas forcément... je répète, hein, mon obstacle n'est pas forcément une plaque plane. Petit x, c'est en fait la direction longitudinale, c'est-à-dire la tangente à la surface à mon obstacle, tandis que petit y, dirais que c'est la direction de la normale locale à mon obstacle. Ce qui permet de généraliser tout ce que je raconte ici à des situations où éventuellement la frontière serait curviligne. OK? Alors, comment est-ce qu'on va travailler maintenant? Bah, exactement avec le même genre d'idée que ce que je suis en train d'effacer. D'accord? Apprendre à jauger les différents termes de cette équation. Bon, bah, c'est un exercice finalement auquel on s'est livré un certain nombre de fois. Commençons par exemple par le terme inertiel. Quand je vais avoir quelque chose de la forme ux dérivée de ux par rapport à x, bah, ça me fait u au carré divisé par grand L. D'accord? Et puis on va quand même mettre ici la masse volumique. Donc je vois que ce terme-là est en ρ u carré sur grand L. Si je m'étais intéressé, si je m'intéresse maintenant au deuxième terme, d'accord, dans le terme inertiel, je vais trouver du ρ uy dux sur dy, et cette fois-ci, je vais avoir donc ρ uy, c'est-à-dire un, c'est-à-dire u delta sur L, ok? Ux, c'est un u infini, pardon. Ux, ça va être à nouveau un u infini. Je dérive par rapport à y, donc je divise par rapport à delta. Et maintenant, ben, je reconnais que finalement, ces deux termes, les deux termes qui composent, les deux quantités qui composent le terme inertiel sont en fait exactement du même ordre de grandeur, à savoir ρ u infini au carré sur grand L. D'accord? Bon, si maintenant je m'intéresse au terme de viscosité, ben les choses sont un petit peu différentes, et ça, ça saute presque aux yeux, parce que ben, je dérive à chaque fois ux. D'accord? Donc on va reprendre cette affaire-là quand même tranquillement. J'ai un terme de la forme mu dérivée seconde de ux par rapport à x carré. D'accord? Ben, donc l'ordre de grandeur va être mu grand u infini et divisé par grand L au carré. J'ai pris la jauge de petit x. Si maintenant je dérive à nouveau ux, mais par rapport à y, et à l'ordre 2, je vais trouver mu u infini sur delta carré. Et comme delta est un infiniment petit de grand L, je ne sais pas encore ce qu'il vaut, mais dans toute mon analyse, delta est réputé être un infiniment petit de grand L, sinon évidemment tout ce que je raconte tombe, c'est plus une zone pariétale. D'accord? Pour que ça soit une zone pariétale, il faut que delta soit un infiniment petit de grand L, et dans ce cas-là, ce terme-là est le terme dominant. Donc je peux négliger le premier par rapport au second. On néglige toujours un terme par rapport à quelque chose, d'accord? Donc je vois que c'est un petit peu une économie de bout de chandelle, mais pas tout à fait. Je peux négliger ce terme-là, d'accord, par rapport à son voisin, ok? Quoi qu'il en soit, ce que je viens de faire apparaître, c'est, et là, ça va être extrêmement important, c'est que l'ordre de grandeur du terme visqueux, c'est ça. L'ordre de grandeur du terme inertiel, il est écrit ici, c'est ça. Voilà l'ordre de grandeur du terme visqueux, voici l'ordre de grandeur du terme inertiel. Et bien, ce que je vais écrire maintenant, c'est que précisément, je vais traduire mathématiquement ce que j'ai dit avec des phrases tout à l'heure, j'ai dit que pour trouver delta, on allait dire que justement, delta, c'est caractériser l'échelle d'espace à laquelle le Reynolds n'était plus grand, devenait grand O de 1. D'accord? C'est-à-dire l'échelle d'espace à laquelle les effets visqueux et les effets inertiels sont du même ordre. Ça veut dire que je vais dire que cette affaire-là, mu u infini sur delta carré et rho u infini carré sur L, c'est une seule et même personne. Et comme je connais rho u infini, mu grand L, eh ben je vais trouver la valeur de delta. D'accord? Donc en fait, la clé, c'est d'analyser les termes visqueux, les termes inertiels, et de dire que justement il existe une région de l'espace où les termes visqueux ne sont pas négligeables, mais bien du même ordre que les termes inertiels. Et ça, c'est la physique donc qui va me le donner. Ça va me donner l'ordre de grandeur de delta. D'accord? Alors quand on fait le travail que je viens de raconter, ben voilà, je réécris les choses d'une manière un tout petit peu différente. Voilà, je fais apparaître une quantité qui n'est rien d'autre que le quotient des deux ordres de grandeur que je viens de calculer. Et en disant que le terme visqueux qui est ici frappé du facteur 1 sur le Reynolds, L sur delta, le tout au carré, est du même ordre de grandeur que le terme qui figure à droite dans mon équation, eh bien, je détermine la valeur de delta. Plus précisément, ce que je vais obtenir, c'est que delta est égal à grand L, la taille caractéristique de l'obstacle que je suis en train d'analyser, divisé par la racine carrée du Reynolds. Quel Reynolds? Attention, le Reynolds qui figure ici, c'est bien sûr le Reynolds que je bâtis à partir de grand L. Et donc, le Reynolds est un infiniment grand, de sorte que delta sur L est bien infiniment petit, qui est jaugé par l'inverse de la racine carrée du Reynolds bâti avec grand L. D'accord? Voilà. Donc là, à ce stade, ce que nous avons fait, c'est que nous avons identifié successivement l'ordre de grandeur de UN, c'est-à-dire l'ordre de grandeur de la jauge pour la composante verticale de la vitesse. Et ce que nous venons de faire ici est décisif. Nous venons de caractériser la taille caractéristique. J'ai pas dit que, voilà, en dehors de delta, ça y est, on est dans les couloirs extérieurs. Non. Delta me donne l'ordre de grandeur de l'épaisseur de la région pariétale dans laquelle les effets visqueux ne peuvent pas être négligés. D'accord? Et cet ordre de grandeur est bien un infiniment petit de la corde de mon aile. D'accord? Puisque, au dénominateur, je vois apparaître le Reynolds bâti avec la corde de mon aile, qui, par construction, est supposé infiniment grand, enfin supposé suffisamment grand, d'accord, pour que les termes visqueux à l'échelle de grand L puissent être négligés. Ok, voilà. Tout calcul fait, eh bien, je vous l'ai dit, finalement, ce qu'on trouve, c'est que on va avoir une simplification modeste pour le moment de l'équation de Navier-Stokes en projection selon la direction x, qui consiste à dégager la dérivée seconde de ux par rapport à petit x. Maintenant, on va faire un petit peu mieux. Une des raisons pour laquelle on peut être inquiet, encore jusqu'à maintenant, on va plus l'être dans quelques instants, par rapport à tout ce qu'on a fait dans le cadre de la théorie des écoulements potentiels, eh bien, c'est que un des résultats, bien sûr, majeurs de la théorie des écoulements potentiels, c'est le calcul de la portance. Le calcul de la portance, on l'a en général traité en mettant en œuvre l'équation de Blasius, d'accord, qui consiste à calculer la résultante des forces de pression sur le contour. Quelle force de pression? Ben, celles qui sont bâties, évidemment, à partir de la vitesse obtenue dans la solution en écoulement potentiel. Ouais. Sauf que le problème, c'est que cette pression, d'accord, on a prétendu qu'elle s'appliquait à la paroi, ce qui n'est pas le cas. D'accord? Puisque entre l'écoulement potentiel et mon obstacle, il y a une couche limite. D'accord? Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas la pression à l'extérieur de la couche limite. Ça, c'est ce que calcule la théorie des écoulements potentiels. C'est pas celle-là qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pression à l'intérieur de la couche limite, au niveau de la paroi. Je répète ce que je viens de dire. On a dit tout est bel et bon dans la solution extérieure parce qu'elle est bâtie sur un Reynolds qui est grand, d'accord, et par conséquent elle est saine. Elle est saine à l'extérieur d'une région pariétale. On s'est convaincu que ça marchait. Donc on calcule une pression à l'extérieur de cette région pariétale. Est-ce que c'est celle qui s'applique sur mon obstacle? Ben, pourquoi ce serait celle-là qui s'applique sur mon obstacle? Rien n'est moins sûr, faut le prouver. D'accord? Et si on n'arrive pas à le prouver, eh ben, on n'a pas calculé la portance. On a calculé la résultante des pressions sur l'extérieur de la couche limite. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est la résultante des pressions qui s'exercent sur l'obstacle, c'est-à-dire à la frontière intérieure de la couche limite. Okay? Et c'est l'enjeu de ce que je vais raconter maintenant. Okay? Donc, pour répondre à cette question qui est déterminante, qui est absolument déterminante, qui conditionne la pertinence de la portance qu'on obtient avec une théorie d'écoulement potentiel, il faut à nouveau regarder dans les équations de Navier-Stokes, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut à nouveau faire parler la physique, et cette fois-ci, on va prendre la projection selon la direction verticale de l'équation de Navier-Stokes. Alors, bah, ça ressemble beaucoup, d'accord? Sauf que maintenant, la quantité qu'on dérive, c'est Uy, partout, d'accord? Tout à l'heure, c'était partout Ux. Vous êtes familier, j'espère, maintenant avec Navier-Stokes, ok? Et on va jauger les trois termes qui interviennent dans cette équation, le terme de pression, le terme visqueux, le terme inertiel. Je pense que maintenant, ça s'est bien rentré dans la tête. Ok, je vais pas refaire les choses. C'est un exercice qui est intéressant, hein, et il faut que vous en soyez un petit peu les familiers. D'accord? Quels sont les ordres de grandeur respectifs de tous ces termes? Si on prend le temps de le faire, bon, celui-là, il saute presque aux yeux. Qu'est-ce que c'est que ρ u infini carré sur delta? Ben, la pression. son ordre de grandeur, c'est rho u infini carré, on l'a dit, l'ordre de grandeur de ses variations à tout le moins, d'accord? Et puis je dérive par rapport à y, l'ordre de grandeur de y, c'est delta, d'où rho infini carré sur delta. Je peux faire la même chose pour le terme de viscosité, encore une fois, on montrerait que la dérivée seconde par rapport à x2 peut être négligée, seule intervient la dérivée seconde de y par rapport à y, d'accord? Donc par exemple ici, u infini delta sur l, bah, ça c'est l'ordre de grandeur de y, comme vous dérivez deux fois par rapport à y, vous avez un terme en 1 sur delta 2, etc. Bon, ce sont des choses qui sont pas très difficiles. Et puis, bien sûr, j'ai enfin le terme inertiel. D'accord ? Voilà. Dans le terme inertiel, on montre aussi que les deux contributions sont exactement du même ordre de grandeur. Il faut regarder. Alors, qu'est-ce que je garde là-dedans ? OK ? Ben, ça, c'est intéressant. Si on fait cette analyse, c'est-à-dire si on quotiente l'ordre de grandeur des termes visqueux, l'ordre de grandeur des termes inertiels par l'ordre de grandeur des termes de pression, d'accord ? Et bien, ce qu'on trouve, c'est-à-dire si on fait I sur P, I, c'est ça. Voilà, I, c'est ça, l'ordre de grandeur des termes inertiels. V sur P, V, c'est ça, c'est l'ordre de grandeur des termes visqueux. Et puis P, c'est l'ordre de grandeur des termes de pression. Et bien, ce qu'on trouve, c'est l'inverse du Reynolds. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là ? Ben, ça veut dire que je peux dégager dans l'équation le terme visqueux et le terme inertiel par rapport au terme de pression. Je ne garde que le terme de pression. Et qu'est-ce que ça veut dire, je ne garde que le terme de pression ? Eh bien, ça veut dire que dans cette équation, je peux effectivement oublier ce terme-là et celui-là, qui sont d'ordre de grandeur inférieur, d'accord ? 1 sur le Reynolds, ok ? Le Reynolds bâti à l'échelle de grand L, et donc je me retrouve avec une équation qui est, je sais ce que je l'ai écrite ou pas, oui, qui est dérivée de P par rapport à Y égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que lorsque je vais traverser la couche limite, la pression est invariable. Ça veut dire en fait que la pression qui s'exerce en Y égale à 0, c'est la même que celle que j'ai en sortie de couche limite. Oui, mais en sortie de couche limite, ce que j'ai, c'est le P de 0 de l'écoulement extérieur, c'est-à-dire la pression que je manipule dans mon équation de Blasius. Et ça, c'est une extrêmement bonne nouvelle. Puisque la pression ne varie pas à l'intérieur de la couche limite, eh ben j'ai la réponse à la question inquiétante que j'avais posée tout à l'heure. C'est, moi, j'ai calculé une portance avec une pression à l'extérieur de la couche limite. Qu'est-ce qui me dit que c'est la bonne portance, c'est-à-dire celle que je dois calculer à l'intérieur de la couche limite? Eh ben, ce qui me dit que c'est bon, c'est justement ce dérond P sur dérond Y égale à 0. La pression ne varie pas à l'intérieur de la couche limite. Par conséquent, ce qui s'applique vraiment sur l'obstacle, même quand je prends en compte les termes visqueux, c'est la pression que j'ai calculée dans le cadre de la solution extérieure, c'est-à-dire en négligeant les termes visqueux. Et ça, ça valide, sous réserve de l'existence de la couche limite, bien sûr, ça valide le calcul par Blasius et tout ce qu'on a fait ensemble dans le cadre de la théorie des écoulements potentiels. Et donc, d'ores et déjà, on peut dire quelque chose. Bien sûr, la théorie des écoulements potentiels ne me donne pas la traînée, mais l'importance qu'elle me donne lorsque la couche limite existe est la bonne. Et donc ça, c'est un résultat qui est absolument majeur. C'est pour ça que je vous parle de couche limite. Il y a pas mal de cours qui sont bâtis en disant bah, on va traiter les écoulements potentiels. Oui, mais quand on traite les écoulements potentiels, on trouve des portances. Qu'est-ce qui nous dit que ces portances sont valables, sont pertinentes? Elles ont été calculées en chintant la physique, en enlevant le terme visqueux. Or, en enlevant le terme visqueux, on prend peur parce que on constate expérimentalement que ce qu'on produit n'est pas conforme à l'expérience puisqu'on rate le terme de traînée. D'accord? Et ben, cette inquiétude, elle est levée. La portance qu'on calcule avec une théorie d'écoulement potentiel est pertinente. Mais j'assortis cette conclusion, d'accord, de quelque chose qui est essentiel. Elle est pertinente sous réserve de l'existence de la couche limite. Vous savez, quand Prandtl a présenté sa théorie, ça, on va parler de Prandtl dans un instant, hein, on va voir les équations de Prandtl, d'accord ? Ben, les gens l'ont pas tellement pris au sérieux parce qu'il a dit, non, mais moi, je pense que les effets visqueux, ils sont importants dans une région fine. Et puis, il est venu comme moi ce matin vous dire, non, mais alors delta, je sais pas trop ce qu'il vaut, d'accord? Mais je sais que, voilà, dans un certain cas, il va y avoir une région pariétale où les effets visqueux sont importants et puis à l'extérieur, ils ne le seront pas. Ben, les gens lui ont dit, oui, mais c'est quand même un peu fumeux, votre affaire, d'accord? Il a été pris au sérieux par un de ses élèves qui s'appelait Blasius et dont on va beaucoup parler tout à l'heure en télé. Et finalement, ben, ça, c'était au début du XXe siècle et aujourd'hui, ben, on est encore en train d'utiliser leurs travaux, d'accord? Mais, faut savoir que ça a pris à peu près 20 ans pour que les travaux de Prandtl soient pris au sérieux par la communauté scientifique, ok? Voilà, c'est un point d'histoire des sciences qui est quand même intéressant à méditer, hein, parce que quelque chose qui est aujourd'hui au cœur finalement de l'analyse physique de ces problèmes d'interaction flux-structure dans le cadre des obstacles profilés, ben, n'a pas eu de succès immédiat, on va dire, hein, parce que 20 ans, c'est pas immédiat, hein, c'est quand même un peu l'échelle d'une carrière scientifique. Voilà. Donc, à partir de maintenant, la pression dans la région intérieure, c'est-à-dire dans ma couche limite, n'est plus une inconnue du problème. Puisque P est invariable à l'intérieur de la couche limite, je connais la valeur de la pression, d'accord? Et je vais pouvoir dire que la pression n'est plus une fonction de x et de y. Lorsque je parle de x et de y, bien sûr, je suis à l'échelle d'espace de ma couche limite. Donc le petit y en particulier, c'est le petit y qui est jaugé par delta. D'accord? Eh bien, à l'intérieur de ma couche limite, c'est plus p de x virgule y, c'est juste p de x. Et ce p de x, c'est le p extérieur que j'obtiens pour la valeur y égale à 0 de l'échelle grossière. D'accord? Voilà. Donc en fait, ça veut dire que le problème différentiel auquel je vais m'intéresser maintenant, qui est l'analyse, donc la détermination des grandeurs physiques à l'intérieur de ma couche limite, prend comme entrée deux informations, on va le voir tout de suite quand je vais faire un petit bilan des équations, deux informations issues de la solution extérieure. D'une part, la vitesse en x égale à 0 de la solution extérieure, d'autre part, la pression en x égale à 0 de la solution extérieure. Quand je dis, non, j'ai dit x égale 0, pardon, excusez-moi, c'est en y égale à 0. C'est-à-dire, au niveau de la paroi, à l'échelle d'espace grossière, je vais avoir deux informations qui vont intervenir comme entrée pour le problème de couche limite, qui vont être la vitesse à la paroi, la pression à la paroi. OK? Voilà. Donc maintenant, petit bilan. Et donc, bah voilà, Prandtl, c'est l'auteur de cette théorie, d'accord? Qui a été présenté de mémoire en 1904, je crois, pour la première fois. OK. Eh bien, si on fait le bilan des équations qu'on vient d'analyser, en les simplifiant, d'accord, en supprimant certains termes qui sont négligeables à l'échelle de la couche limite, eh bien, on va avoir l'équation de conservation de la masse, la projection simplifiée selon x de l'équation de Navier-Stokes. Alors, elle est simplifiée d'une part par le fait que je n'ai plus ici le terme de dérivée seconde de ux par rapport à x2, je n'ai que le terme de dérivée seconde par rapport à y2, d'accord? Et elle est simplifiée également par le fait que ici, ce n'est plus la dérivée partielle de la pression par rapport à petit x, mais la dérivée droite par rapport à petit x de la pression de l'écoulement extérieur, qui n'est fonction que de petit x. OK? Voilà. Donc, pour ce qui est de la projection de Navier-Stokes, et ça s'arrête là pour les équations de champ. La troisième équation de champ, qui correspondrait à la projection selon y de l'équation de Navier-Stokes, nous venons de dire qu'elle exprimait le caractère uniforme de la pression à l'intérieur de la couche limite. Maintenant, il faut regarder les conditions limites. Quelles sont-elles? Ben, les conditions limites, je vais avoir bien sûr les conditions limites d'adhérence, qui vont concerner aussi bien la composante horizontale que la composante verticale de la vitesse. D'accord? Et puis, je vais avoir la condition de raccord dont on a déjà beaucoup parlé. Okay? Je vais devoir raccorder la vitesse petit x, la composante horizontale de la vitesse, à l'écoulement extérieur. Ça se fait lorsque petit y tend vers l'infini. Tend vers l'infini, pour petit y, ça veut dire quelques valeurs de delta. Lorsque je prends quelques valeurs de l'épaisseur de ma couche limite, d'accord, ben je sors de ma couche limite, j'arrive dans l'écoulement extérieur, je suis au zéro de l'écoulement extérieur, et donc la condition de raccord s'exprime comme une limite infinie de la valeur de la composante horizontale de la vitesse dans la région pariétale. D'accord? Alors quelqu'un peut être surpris en disant, tiens, mais c'est marrant, on raccorde du x, on raccorde pas uy. Bah oui. Mathématiquement, on ne peut pas le faire. Pourquoi on ne peut pas le faire? Ben, on ne peut pas le faire parce que le problème, si vous le regardez bien, est un problème différentiel d'ordre 1 par rapport à uy. Regardez, il est d'ordre 2 par rapport à ux, donc j'ai besoin de deux conditions limites pour ux, d'accord? Et les voici, conditions d'adhérence, conditions de raccord. Alors que pour uy, j'ai besoin d'une seule, ou plus exactement, il faut le dire d'une manière un peu négative, je ne suis capable d'intégrer qu'une seule information concernant uy, puisque j'ai un problème différentiel d'ordre 1. Bah, ça veut dire que mon raccord en uy, il n'est pas forcément parfait. D'accord? Ben, il faut vivre avec ça. D'accord? Hein? Vous êtes bien d'accord avec moi que quand je regarde ce problème différentiel, il est d'ordre 1 par rapport à UY, en ce qui concerne UY. Et donc, ben, typiquement, hein, formellement, à faire les choses un petit peu formellement, d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on procède, vous avez peut-être procédé comme ça tout à l'heure en petite classe, je vais calculer UY à partir de UX formellement en intégrant l'équation de continuité, en intégrant cette équation de continuité par rapport à petit y. Et pour ça, bien sûr, j'ai besoin d'une condition limite. Ben là, voilà, c'est la condition limite d'adhérence. Et puis après, c'est fini. D'accord? Après, c'est fini. Vous allez éliminer UY ici en fonction de UX, tel que déterminé par intégration de l'équation de continuité. UY ne fait plus partie des décors et vous êtes incapable d'aller raccorder UY à l'écoulement extérieur. D'accord? Donc, vous allez trouver une valeur de UY en sortie de couche limite qui n'est pas, a priori, égale à zéro, à savoir la valeur que vous avez dans l'écoulement extérieur. Ben, faut vivre avec ça. D'accord? Voilà. Donc, ben maintenant, on va annoncer des résultats qu'on va... Prandtl, voilà, présente sa théorie, pas très bien reçue, sauf qu'il a un de ses élèves qui a compris que c'était ben, probablement quelque chose d'assez génial, et qui va travailler sur sa théorie. Il s'appelle Blasius, d'accord? Le même monsieur que les formules de Blasius. Bon, ben Blasius, voilà, il a attaché son nom à une solution fondamentale qui nous permet de bien comprendre les choses qui se passent lorsqu'on n'examine l'interaction d'un écoulement avec une plaque plane sans incidence. D'accord? Donc ça, c'est un problème très simple. Je vais simplement résumer les résultats parce que ça va faire l'objet d'une très large partie du TD. D'accord? Donc mon problème est le suivant. J'ai une plaque plane. D'accord? Et cette plaque plane est exposée à un écoulement uniforme. D'accord? Sans incidence. Caractérisé évidemment par une vitesse U infinie et il a une certaine pression P infinie, ben vous savez très bien que dans ce cas-là, si vous analysez les équations de l'air du problème, eh bien la plaque ne vient évidemment apporter aucune perturbation à l'écoulement, de sorte que votre écoulement extérieur, il est très simple, c'est UE égale U infinie et PE égale P infinie. La plaque n'apporte aucune espèce de perturbation s'il n'y a pas d'incidence, bien sûr, à l'écoulement extérieur. Bon, ben maintenant, si on reprend le même problème de physique, mais en disant, oui, mais il faut respecter la condition d'adhérence, eh bien, évidemment, on rentre dans la problématique de la détermination de la couche limite. Alors, les résultats fondamentaux sont les suivants. L'épaisseur, l'ordre de grandeur, pardon, on verra tout à l'heure ce qu'il en est pour l'épaisseur, l'ordre de grandeur de l'épaisseur de la couche limite, d'accord, va varier comme une fonction racine carrée de x, d'accord. C'est-à-dire que la couche limite au niveau du bord d'attaque va être extrêmement petite, va être nulle en fait, d'après la théorie, ok, et elle va croître en racine carrée de x à mesure qu'on se déplace vers l'aval. Bon, ça c'est quand même une mauvaise nouvelle, hein, parce que si mon épaisseur de couche limite est très très petite, ça veut dire qu'il faut que je raccorde une vitesse nulle au niveau de la paroi à la vitesse extérieure, U infini, sur un delta qui est tout, tout, tout petit. D'accord? Donc, ça veut dire que je vais avoir des taux de déformation. Vous vous rappelez que le taux de déformation, c'est la dérivée de la vitesse par rapport aux coordonnées d'espace. Ben, je vais avoir un taux de déformation très élevé. Donc, a priori, des contraintes très élevées. Donc, et puis, éventuellement, si delta tend vers zéro, je vais avoir des contraintes infinies. Et ça va pas couper. C'est exactement ce qui va se passer. En fait, je vais avoir des contraintes pariétales infinies au voisinage du bord d'attaque. Alors, on n'aime pas tellement les contraintes infinies. Ça fait des ordres. C'est comme ça. On n'y peut rien. Faut vivre avec, hein. D'accord? Dès qu'on fait des modèles, on trouve des choses qui bah, peuvent évidemment prêter à discussion. Voilà, ça c'est le premier point, la variation spatiale de l'épaisseur de la couche limite. Attention, ça n'est pas une propriété générale. Il existe des tas de situations où la variation de la couche limite en fonction de la variable longitudinale, petit x, bah, n'est pas du type racine carrée. D'accord? Par exemple, si vous êtes intéressé, on en parlera un tout petit peu plus tard. Voilà, ça c'est le premier résultat. Le deuxième résultat qui est majeur, et que je vais montrer dans un tout petit instant, pas que je sois trop bavard, c'est ce qui concerne, évidemment ce qui m'intéresse, c'est le profil de vitesse. Depuis tout à l'heure, je vous montre des profils de vitesse, c'est-à-dire des trucs comme ça, d'accord? Voilà, je dis ça c'est Y, et puis ça c'est ma vitesse, ok? Donc évidemment, ce que j'ai ici en abscisse, c'est UX. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment va varier ma vitesse, d'accord, à mesure que je m'éloigne de la paroi. Ben, évidemment, a priori, UX, la vitesse longitudinale, va être une fonction de petit x et de petit y. Ben là, on a un résultat magnifique, en fait. C'est que il existe, enfin, la solution est en fait auto-semblable. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Ça veut dire que UX ne va dépendre de petit x et de petit y qu'à travers un quotient qui est finalement très naturel sur le plan physique, qui est le quotient entre y, la variable d'espace vertical, d'accord, et delta de x, qui est l'épaisseur de couche limite. La seule chose qui va intervenir, c'est le quotient y sur delta. Et ux ne va dépendre que de ce quotient y sur delta. D'accord? Ça veut dire que quelle que soit l'abscisse que je considère, lorsque je normalise ux par la vitesse de l'écoulement extérieur, à l'infini, U infini, d'accord, je vais trouver la même fonction, le même profil de vitesse. Le même profil de vitesse, quelle que soit la position que je considère sur la plaque. Okay, c'est ça qu'on appelle une solution auto-semblable. Elle est semblable en n'importe quelle section petit x de la figure. Okay, et voilà l'allure de ce profil, ok. Je répète qu'en abscisse, j'ai la vitesse normalisée ux sur u infini, donc évidemment, en sortie de couche limite, c'est-à-dire lorsque y devient grand par rapport à delta, eh bien, je demande évidemment que ce quotient tende vers 1. Voici la condition de raccord. La condition de raccord, c'est que cette courbe est, lorsque état tend vers l'infini, une asymptote qui est ux égale u infini, c'est bien respecté évidemment par le profil que je vous propose ici, et typiquement j'atteins la valeur 99% de la vitesse u infini pour une valeur de état qui est de l'ordre de 5, ça veut dire que l'épaisseur de ma couche limite, c'est pas delta, hein, c'est en gros 5 fois delta. Hein, comme je l'annonçais depuis à plusieurs reprises, delta c'est l'ordre de grandeur, c'est pas l'épaisseur, c'est l'ordre de grandeur de la couche limite. Voilà, j'en dis pas plus parce que ça va être présenté très en détail lors du TD que nous allons avoir maintenant. Juste un dernier point, eh bien maintenant que j'ai la cinématique, je peux passer à la mécanique, c'est-à-dire je peux calculer les efforts. C'est bien ce qui nous a motivés. On a dit moi j'ai raté la traînée parce que j'ai pas pris en compte les termes visqueux. Maintenant que j'ai le champ de vitesse, je suis capable de calculer le taux de déformation et donc les contraintes à l'aide, bien sûr, de la loi du flux newtonien. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve une contrainte pariétale. Je vais calculer une contrainte pariétale et je vais qui est sigma xy, c'est-à-dire la composante tangentielle, d'accord, du vecteur contrainte qu'exerce l'écoulement sur ma plaque. Et lorsque je vais intégrer cette affaire-là sur la largeur de ma plaque, je vais obtenir la force de traînée qu'exerce l'écoulement sur la plaque. Et la nouvelle importante, alors bien sûr, cette force de traînée va dépendre de la viscosité, et de manière évidemment croissante, va dépendre de la masse volumique, va dépendre de la largeur que je considère. Plus c'est grand, plus ça va frotter, évidemment. Point intéressant, eh bien, cette force ne varie pas en u carré, hein. Elle varie en u à la puissance 3,5. Ça veut dire que cette force de frottement est beaucoup plus faible, a priori, beaucoup moins, elle est moins sensible à la vitesse que la force de traînée turbulente que l'on a manipulée dans le cadre d'utilisation de formules qui font intervenir le mètre couple, hein. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait essentiel et qui pourrait être illustré par des applications numériques, peut-être tout à l'heure en télé. Voilà. Alors, j'ai encore quelques petites choses à vous raconter, d'accord, qui sont tout à fait essentielles sur le plan qualitatif. Je viens de me livrer à une analyse. J'ai dit que quand Prandtl a présenté sa théorie, les gens, lui ont pas sauté au cou en disant c'est absolument génial. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ok? Pourquoi? Parce que la couche limite, elle n'existe pas tout le temps. Ok? Et on va tout de suite regarder ce qu'il en est et essayer de discriminer les situations où elle existe et où elle n'existe pas. Voilà. Un dessin que, au moins, ceux qui ont fait de la mécanique des fluides en prépa connaissent bien, c'est l'interaction de l'obstacle cylindrique circulaire avec un écoulement. Et à plusieurs reprises, on a dit, vous savez, toutes les solutions qu'on vous propose sur le cylindre circulaire, en fait, elles sont très intéressantes sur le plan mathématique, elles n'ont pas de pertinence physique. Elles n'ont effectivement pas de pertinence physique, parce que voilà ce qui se passe dans la vraie vie, d'accord? L'écoulement n'est pas... Alors ici, mon écoulement, pour une fois, il vient de la droite, il va vers la gauche, d'accord? Il vient de par là, il vient d'ici, puis il va par là. Et je constate que sur la face amont, ça ressemble beaucoup à ce que je trouve avec la solution analytique dans le cadre de la théorie des écoulements potentiels, quand je regarde au contraire la figure à l'aval, ça marche pas du tout. La raison? La raison, c'est que j'ai une couche limite qui s'est formée à la paroi à l'amont et je n'ai pas de couche limite à l'aval, puisque la couche limite n'existe pas. Et donc, si la couche limite n'existe pas, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure à plusieurs reprises, si la couche limite n'existe pas, alors l'écoulement potentiel que je construis, c'est-à-dire la solution extérieure, n'a pas de pertinence physique. L'écoulement potentiel ne peut être validé que si la couche limite existe, d'accord? Voilà, donc ça c'est un point tout à fait essentiel. Bien sûr que c'est intéressant d'étudier la couche limite, encore faut-il savoir si elle existe. Si elle existe, automatiquement, L'écoulement potentiel qui va avec est validé. Si elle n'existe pas, il n'a pas de pertinence physique et les calculs, et en l'occurrence ceux auxquels on s'est livré ensemble sur l'obstacle cylindrique circulaire, n'ont pas de pertinence pour cet obstacle. D'accord ? Voilà. Alors, quel est le critère d'existence ? Ben, le critère d'existence, il est finalement relativement simple. Je le fais figurer sur ce dessin. Pourquoi cette figure, qui devrait être symétrique, ne l'est en fait absolument pas ? Ben, parce qu'elle est dissymétrique en ce qui concerne le gradient de pression. Vous savez très bien que dans cette figure, il y a deux points d'arrêt qui sont les deux points diamétralement opposés sur l'axe horizontal ici. Ça, c'est un point d'arrêt, d'accord ? Ça, c'est un autre point d'arrêt. Un point d'arrêt, d'après Bernoulli, c'est quoi ? Un point d'arrêt, d'après Bernoulli, c'est automatiquement un maximum de pression. Donc ça veut dire que si je suis le filet qui part du point d'arrêt de droite, ici, ben, la pression elle va forcément diminuer, d'accord, puisque je pars d'un maximum. Au contraire, si je pars de ce point-là et que je me rapproche du point d'arrêt qui est à gauche, d'accord, ben, la pression elle va forcément augmenter. Donc j'ai une dissymétrie très forte sur un paramètre qui va s'avérer essentiel, qui est le gradient de pression que vit le filet, que rencontre le filet d'air, ou le filet de fluide, d'accord, qui longe l'obstacle. Et la règle qu'on peut démontrer dans le cadre d'une étude théorique qui va relativement loin, qu'on appelle la théorie de Falkner-Skahn, d'accord, c'est que lorsque le gradient de pression est négatif, il est favorable à la stabilité de la couche limite, elle peut se former. Alors qu'au contraire, lorsque le gradient de pression est positif, on dit qu'il est adverse, d'accord, et il est défavorable à la stabilité de la couche limite. C'est-à-dire qu'elle peut se former, mais elle est instable. D'accord? Et c'est exactement ce qui se passe ici. Gradient de pression adverse, la couche limite est instable. Dans la pratique, au laboratoire, je ne peux pas l'observer. D'accord? Alors, justement, cette théorie de Falkner-Skahn, est une généralisation de ce qu'on va faire tout à l'heure en petite classe, qui est la solution de Blasius, qui montre que, alors là c'est pareil, hein, l'écoulement il va de la droite vers la gauche, voilà, c'est le sens de l'écoulement, c'est ce que vous donnent les flèches du haut, là, et ben lorsque le gradient de pression est positif, c'est-à-dire que lorsque mon filet d'air, mon filet de fluide est en fait en train de monter en pression, d'accord, et bien il y a un courant de retour qui peut se former, et ce courant de retour est de nature à fabriquer un tourbillon, et à ce moment-là, il y a décollement de la couche limite. En aérodynamique, le décollement de la couche limite, c'est quelque chose qui est grave, d'accord ? Pas en aérodynamique, plus exactement. En vol à moteur, d'accord ? Parce que le décollement de la couche limite, ça veut dire, en général, pour un pilote, décrochage et son engin part en vrille. Donc c'est évidemment un point qui est tout à fait délicat du point de vue de la mécanique du vol. Mais ça dépasse le cadre de notre discussion. Ok, j'ai encore deux petites choses à vous raconter. Finalement, je viens de le dire, il y a un critère très simple pour déterminer si oui ou non il y a formation et stabilité d'une couche limite ou pas, d'accord ? Ce critère très simple, c'est le gradient de pression. Eh bien, je vais montrer deux figures qui ont l'air gentilles comme ça et qu'il faudra bien être capable de maîtriser. Voilà, c'est deux dièdres en fait. Je regarde des écoulements dans des dièdres. Je vais avoir très souvent cette affaire-là dans la pratique, ok ? Eh bien, quand je prends la figure de gauche et la figure de droite, je prétends que les conclusions en matière de stabilité de la couche limite sont radicalement différentes. Je prétends que dans le cas de la figure de gauche, pour laquelle l'angle du dièdre est inférieur à pi, il y aura à l'aval stabilité de la couche limite. Alors qu'au contraire, dans le cas de la figure de droite, pour lequel l'angle du dièdre est supérieur à pi, eh bien les conditions de stabilité de la couche limite ne sont pas réunies. Encore une fois, le critère, c'est celui du signe du gradient de pression. Alors, je donne simplement le principe de la démonstration du fait que les signes du gradient de pression sont opposés entre la figure de gauche et la figure de droite. Bon, certains d'entre vous ont peut-être analysé l'écoulement dans un dièdre dans le cadre de la théorie des écoulements potentiels, d'accord ? Dans ce cas-là, vous avez peut-être encore en mémoire que le potentiel complexe est une fonction puissance de Z. Alors, quand on a le potentiel complexe, on peut calculer la fonction de courant. Effectivement, on montre que cette fonction de courant, eh bien, elle a deux isovaleurs qui sont la branche θ égale à 0 et la branche θ égale à pi sur m plus 1. Hein, je vais la montrer ici. Voilà, la branche θ égale à 0 est ici, c'est une isovaleur de ψ. La branche θ égale pi sur m plus 1 est une autre isovaleur de ψ. D'accord ? Donc ça valide bien sûr le fait que cet écoulement, ce potentiel complexe soit compatible avec une géométrie de dièdre pour l'angle du dièdre égal à pi sur m plus 1. D'accord? Et quand on va plus loin, qu'on calcule la vitesse complexe, et qu'on calcule à partir de la vitesse complexe modulo Bernoulli le signe de la pression, eh bien, ce qu'on obtient, c'est que le gradient de pression a le signe opposé de petit m. Voilà ce qu'on obtient. D'accord? Et finalement, quand on regarde les valeurs de petit m, eh bien, ici, c'est une valeur positive, donc le gradient de pression sera négatif à l'aval du sommet du dièdre. Ici, petit m est négatif, donc le gradient de pression sera positif à l'aval du sommet du dièdre. Et voilà comment on est capable de discuter sur des configurations géométriques fondamentales, d'accord, de l'existence ou non d'une couche limite, plus exactement de sa stabilité. Je vais finir en apportant la réponse à une question qui est qualitativement très importante. On vous a dit que pour calculer la portance, qu'il n'y avait pas de portance, il n'y a pas de circulation. Et on a dit, pour calculer la circulation, c'est pas compliqué, on va écrire la condition de Kuta. Et on l'a pas sorti du chapeau, on l'a sorti, évidemment, d'analyse expérimentale en soufflerie, qui montre que, au niveau du bord de fuite, il n'y a pas de singularité de la vitesse. D'accord? Donc, on vous a appris à calculer la valeur de petit m. Mais ce qu'on n'a pas encore considéré ensemble, c'est l'origine même de petit m. Je vais donc maintenant dire des choses qui sont... j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais prendre juste 2 minutes pour raconter ça, et ce sera seulement qualitatif, mais je pense que ça apportera la réponse à des questions que certains d'entre vous se posent. Je sais calculer petit m, mais d'où vient-il? Eh bien, il vient justement de ces considérations de stabilité de couche limite. Alors, juste un mot là-dessus. Voilà 2 dessins. C'est l'interaction d'une plaque plane, c'est un problème qu'on connaît fort bien normalement, d'accord, l'interaction d'une plaque plane avec un écoulement qui présente une incidence alpha à l'infini. À gauche, j'ai dessiné la physionomie des lignes de courant dans le cas acyclique, petit m égale à 0. À droite, je sais très bien que ça vit pas dans la vraie vie. On vous a expliqué, ça marche pas. D'accord? À droite, j'ai présenté au contraire les lignes de courant dans le cadre de la solution pertinente sur le plan physique, c'est-à-dire celle qui correspond à la valeur de petit m donnée par la condition de Kuta, okay, celle que je vais observer en soufflerie. Okay. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que je n'en reste pas au dessin de gauche? Pourquoi ce dessin de gauche est en fait disqualifié physiquement? Eh bien, avec ce qu'on vient de raconter aujourd'hui, ce dessin de gauche, probablement, c'est ce qui va se passer dans les tout premiers instants de l'écoulement, d'accord? Pourquoi est-ce que c'est pas stable, cette affaire-là? En fait, si on y regarde de plus près, cette figure qui a l'air gentiment symétrique ne l'est absolument pas. Les conditions de l'intrados et les conditions de l'extrados sont radicalement différentes. Ces deux points ici, ce sont des points d'arrêt, des points où la vitesse est nulle. Regardez les filets d'air à l'intrados par rapport au point d'arrêt. Ils s'éloignent gentiment du point d'arrêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les filets d'air vont suivre des trajectoires sur lesquelles la pression est décroissante, puisque le point d'arrêt correspond à un maximum de pression. Donc, je suis dans une configuration où le gradient de pression est favorable, il est négatif, d'accord? Je descends, la pression diminue à mesure que je descends le filet d'air. D'accord? Ça veut dire que finalement, les conditions de l'intrados ici sont favorables à la stabilité d'une couche limite. À l'inverse, si je regarde l'extrados, les filets d'air sont convergents vers le point d'arrêt. C'est-à-dire que sur ces filets d'air, la pression est croissante. Et donc, forcément, les conditions de stabilité d'une couche limite à l'extrados ne sont pas réunies. Ça veut dire que si elles ne sont pas réunies, je ne vais pas observer cette physionomie au laboratoire. Okay? Alors, il va se passer une succession de phénomènes. C'est que, puisque à l'extrados, le régime que j'ai dessiné n'est pas stable, il va y avoir décollement de la couche limite. Ce décollement va s'accompagner de... J'ai donc un régime acyclique instable à l'extrados, non pas à l'intrados, seulement à l'extrados. Le régime acyclique est instable. Il va donc y avoir forcément formation, décollement de la couche limite et formation d'un tourbillon. Ce tourbillon va se déplacer vers l'aval, d'accord? Mais alors, c'est un théorème qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer ensemble, qui est le théorème de Kelvin, qui nous dit que si je considère un arc matériel fermé, sur cet arc matériel, la circulation doit être constante. J'ai un tourbillon qui se détache, c'est-à-dire j'ai une vorticité qui part vers l'aval, elle doit être compensée par une contre-vorticité de signes rigoureusement opposés, d'accord? Et cette contre-vorticité, c'est-à-dire la vorticité inverse de celle du tourbillon qui est partie à l'aval, elle va se localiser autour de l'aile. Et c'est ça, mon petit thème. La circulation qui apparaît autour de mon aile garantit la conservation, c'est-à-dire la nullité de la circulation totale, d'accord, suite à l'apparition d'une vorticité qui a été contemporaine de la migration de mon point d'arrêt depuis la position qu'il a dans le régime acyclique vers la position qu'il a dans le régime de Kuta. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, quand la contre-circulation s'est installée autour de l'aile, eh bien, je vais avoir un régime cyclique stable, parce que maintenant, lorsque je considère l'extratos, je n'ai plus de point d'arrêt. Et donc, je ne vais plus avoir cette difficulté que le filet d'air va rencontrer un gradient de pression adverse. D'accord ? Voilà. Je sais que j'ai été vite, mais si vous reprenez tranquillement cette affaire-là, vous comprendrez pourquoi la condition de Kuta, d'accord, est intimement lié à la discussion sur la stabilité de la couche limite, au sujet de laquelle j'ai pris pas mal de temps au cours de cet amphi. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et nous rejoignons donc les petites classes aussi vite que possible.